gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. Et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. C'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous l'accueillons à l'émission. Notre invité n'a plus besoin de présentation, mais a peut-être ressenti le besoin d'ouvrir encore plus grand son cœur en racontant son parcours de vie dans un livre qui vient de paraître, « Mon histoire en noir et blanc ». Richard Abel, tellement heureux de vous savoir là avec nous en cette presque fin d'année. Beau cadeau que vous nous faites en nous ouvrant plus grand encore le livre de votre vie.
Oui, Armand, merci beaucoup de me recevoir à votre émission.
C'est toujours un plaisir et c'est sincère.
Et c'est sincère. Et le titre du livre, mon histoire en noir et blanc, fait allusion à mon clavier, évidemment, avec les touches blanches et les touches noires. Et Armand, les gens connaissent davantage les touches blanches de ma vie. Mon gain à la loto, mes succès, les disques platines et tout ça, mon spécial télé aux États-Unis sur PBS, le Centre Bell, et je pourrais continuer longtemps comme ça. Ce sont les touches blanches de ma vie, mais cependant, beaucoup de personnes ignorent les touches noires de ma vie, pourtant il y en a sur un clavier. Et souvent chez mes détracteurs, par exemple, je leur demandais « Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que vous aimez pas de moi? Qu'est-ce qui vous achale? » Et souvent, on me disait « Tu as l'air tellement au-dessus de tes affaires. Toi, on te voit, puis ça a l'air tellement bien allé. »
Et pourtant, quand on vous connaît, voilà. C'est tout le contraire.
Et ce que je disais, c'est « Bonhomme, si tu savais par où je suis passé, si tu savais ce que j'ai dû endurer quand j'étais jeune, si tu savais mon histoire, tu aurais peut-être une autre façon de me regarder. » Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de t'écrire.
Mais de passer à l'acte, si j'ose dire, c'est pas évident, parce que de se livrer comme cela, à livre ouvert, c'est le cas de le dire, mm-hmm. Ça demande non seulement une forme d'humilité, ça demande aussi une certaine forme de respect à l'égard de soi-même et des autres, et de franchir cette frontière-là, c'est pas toujours facile, parce qu'on sait que la critique peut-être très violente aussi à l'égard. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Mm-hmm. Pourquoi est-ce qu'il nous parle de sa vie privée? Est-ce qu'on a besoin de savoir ça?
Oui, effectivement. Alors, pour les raisons que je vous ai parlé tantôt, j'ai décidé de le faire, mais après de longues et mûres réflexions, et de parler de sa vie privée comme je le fais, de me confier, de m'ouvrir complètement, c'est pas toujours facile. On a des choses privées qu'on aurait aimé garder pour soi. Par exemple, je parle de mon homosexualité qui, je le faisais pas avec plaisir, mais lorsqu'on veut être transparent, lorsqu'on veut être honnête et qu'on écrit un livre sur sa vie, ben, il faut parler de ça, je pense. Et je ne voulais pas le faire. Et je ne l'ai pas fait pendant de nombreuses années parce que vous et moi, Armand, ce qu'on ne veut pas faire, c'est décevoir les gens. On a toujours peur de décevoir, de déplaire. J'ai fait, par exemple, 51 émissions de télévision avec Sœur Angèle. Je sais que j'ai un public qui est très religieux et pratiquant et j'avais peur de les décevoir, tout simplement. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, l'auteur m'a dit, « Richard, à cacher la vérité ou à mentir, tu vas décevoir davantage. » Et j'en profite pour dire que lorsqu'un enfant naît sans bras ou jambes, il ne l'a pas demandé. C'est arrivé comme ça. Et mon orientation, c'est arrivé comme ça. Je ne l'ai pas demandé. Je ne l'ai pas choisi. Je dois faire avec.
Et c'est une preuve aussi, disons-le, d'authenticité. Voilà. En vous livrant de cette façon-là, en vous mettant véritablement à nu, vous faites preuve d'authenticité. Voici le vrai Richard Abel. Vous connaissez le personnage, mm-hmm. celui qui joue du piano, celui qui fait des spectacles. Mais Richard Abel est avant tout un homme, un individu qui a oui. aussi une vie privée et qui a besoin de vous dire, quand vous venez le voir, vous venez voir aussi la personne. Elle a besoin d'être en relation avec vous de façon authentique.
Effectivement. Il m'est arrivé, Armand, de lire des biographies d'artistes avec lesquels j'ai travaillé. Par exemple, Alice Robbie ou Gilda. Et j'étais déçu de lire des passages qui n'étaient pas exacts ou qui n'étaient tout simplement pas vrais. Et par respect pour les lecteurs et les lectrices qui nous lisent, je pense qu'on doit dire les vraies choses. Et aussi par respect pour l'histoire, les écrits restent. Et ce que nous disons a un poids au niveau de l'histoire. Et si on fausse l'histoire, je trouve que c'est de manquer de respect envers l'humanité et envers la façon dont ça fonctionne. Alors, j'ai décidé de tout dire. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle j'ai demandé à Denis Martin Chabot, qui est un journaliste que vous connaissez de Radio-Canada, qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps, mais qui a été au poste pendant 32 ans. J'étais habitué d'entendre à Radio-Canada. C'était un reportage de Denis Martin Chabot. Eh bien, lui, je lui ai demandé d'écrire le livre parce que je savais qu'il ferait son travail de journaliste, qu'il vérifierait beaucoup de points, qu'il irait interviewer beaucoup de personnes. Et entre autres, il est allé interviewer ma mère avec un magnétophone devant elle et elle a décidé de tout raconter. Et elle, la première, m'a encouragé à dire les vraies choses. Elle me dit, Richard, les gens ont besoin de connaître ton histoire parce que je pense qu'à l'occasion, tu es mal jugé. Alors, voilà, donc je dis tout.
Parce qu'on raconte aussi cette enfance. D'ailleurs, vous dites que Denis Martin est allé questionner votre maman. Votre maman raconte, entre autres, et vous, Denis Martin Chabot et vous-même en faites mention dans le livre, que quand vous aviez 3 ou 4 ans, vous écoutiez beaucoup, selon votre maman toujours, Liberace, qui avait une émission à la télévision. Mais ce n'est pas tout à fait le même souvenir que vous avez, vous. Mm-hmm. La première personne dont vous vous souvenez d'avoir vu peut-être la silhouette comme artiste à la télévision, bien, c'est celle qu'on va entendre maintenant. Mais on peut donner le titre, parce que le titre était très présent à votre esprit.
Ah oui, je me rappelle très bien de ça. Je me rappelle d'elle. C'est ça. C'est le premier visage que je me rappelle avoir vu à la télé. C'est celui de Michel Richard qui chantait « Je suis libre ».
Je suis libre, ne me dis pas que je t'appartiens. Je suis libre et je sais que je ne te dois rien. Je sais ce que tu diras et ce que tu feras. Quand je voudrais m'en aller, tu ne peux m'en empêcher. Je suis libre, n'essaie pas de changer mes projets. Je suis libre, n'essaie pas de savoir où je vais. Je sais ce que je dirai, je sais ce que je ferai. Je veux vivre enfin ma vie comme j'en avais envie. Car moi, j'aime m'amuser, je tiens à ma liberté.
Je suis libre, qui était une adaptation de You Don't Own Me de Leslie Gore.
Ah oui.
Oui. Et tout ça pour dire que dans votre livre, qui a pour titre, on le rappelle, Le clavier de ma vie, en fait, mon histoire en noir et blanc, Le clavier de ma vie, Richard Abel, vous racontez des choses qui peuvent encore peut-être faire ressurgir certaines blessures, mm-hmm. entre autres la relation entre votre père et votre mère qui n'a pas été toujours très harmonieuse.
Non, effectivement, papa a eu une vie en deux actes, je devrais dire. La première partie de sa vie a été horrible parce qu'il était aux prises avec des problèmes de consommation, de drogue et de boissons. Et ce cocktail chez lui était très néfaste. Ça le rendait très violent. On aurait dit que toute cette rancœur qu'il avait accumulée au fil des ans, il a été placé dans un orphelinat, et il n'a pas eu de père lui non plus et tout ça. Bon, faisant en sorte que lorsqu'il buvait, il devenait très, très violent. Et combien de fois il a battu maman devant nous, mon petit frère et moi. Et toute cette cruauté aussi verbale. Je vais vous donner un exemple, Armand, que je n'ai pas dit dans aucune autre émission ou entrevue, mais que ces mots-là, qui sont durs parfois, peuvent avoir des conséquences tout au long de notre vie. Maman a un petit chien, un petit schnauzer, une petite chienne, d'ailleurs, qui s'appelle Tina. Mais maman ne peut pas nous entendre dire « chienne ». Elle ne veut pas qu'on parle de son chien en disant le mot « chienne ». Elle dit « dites pas ça, ce mot-là a une connotation pour moi tellement négative ». Alors on dit « le petit chien de maman ». On ne peut pas dire « la petite chienne de maman ». Elle ne peut pas entendre le mot. Et même moi aussi, quand je dis « chienne » pour moi...
On comprend.
On comprend. On comprend. Ce mot a été utilisé par papa tellement de fois. Et... Bon. Ça, c'est dans la première partie de sa vie. Mais pourquoi j'ai décidé d'en parler de mon père et de ça, c'est parce qu'à un moment donné, il s'est pris en main. Et c'est pour dire aux gens qu'il y a de l'espoir. Quand papa a mis fin à ses problèmes de consommation, il est devenu un être extraordinaire. Mes musiciens, mes musiciennes l'appréciaient beaucoup. Et d'ailleurs, on peut voir sur Facebook un numéro père-fils que j'ai fait en Floride. On a fait une tournée d'à peu près 17 petites villes aux États-Unis, en Floride. On a fait 17 spectacles ensemble. Papa n'avait jamais joué avec un orchestre, avec des violons et tout ça. Et c'est maman qui m'a dit, lorsque nous étions jeunes, on n'était même pas mariés, on se fréquentait, il dit, maman me dit, ton père jouait de l'harmonica. Je dis, ah oui, je l'ai jamais vu jouer de l'harmonica. Alors, j'en ai parlé à mon père. Mon père s'est acheté une harmonica, une belle, puis on faisait ce numéro père-fils. Et Armand, je faisais pleurer les hommes dans la salle qui auraient aimé avoir cette relation-là avec leur fils. Souvent, il y a des hommes qui me disaient, mon fils vient me voir à mon anniversaire, à Noël et à Fête des Pères, et je ne le vois pas le reste du temps. Et de nous voir ensemble sur la scène, je prenais mon père dans mes bras, puis on saluait en se tenant la main. Et papa avait une ovation debout. Et ce que je vous parle, c'est sur Facebook. Vous tapez Richard Abel, Claude Abel. Alors, c'est tout ça pour vous dire que j'avais une belle relation avec mon père après. Alors, les gens qui vont lire mon livre au début vont penser que je détestais mon père. C'est surtout ce que l'alcool et la drogue faisaient de mon père que je détestais. Parce que dans le fond de lui, je pense que j'ai entendu ça quelque part, que l'homme au départ, la personne au départ, elle est bonne. Et c'est la vie qui parfois nous change. Et ou des problèmes de consommation. Alors, voilà, papa n'a pas été drôle du tout, du tout. Je pense qu'un homme qui bat une femme, c'est pas bien. Mais j'ai dû tourner la page.
Diriez-vous, et la question est très personnelle, mais que tout cela peut-être, ou non, a influencé votre orientation sexuelle?
Je ne pense pas. J'ai jamais consulté vraiment. C'est pas que j'ai honte de le faire. Peut-être qu'un jour, je devrais le faire. Est-ce que un père manquant peut influencer? Est-ce que le caractère de ma mère dominait? Quand j'étais jeune, je pourrais pas vous dire, je suis pas un psychanalyste, mais à l'époque, il y avait pas d'Internet. Je savais même pas que deux personnes du même sexe pouvaient s'embrasser ou s'aimer, tout simplement. Je ne savais pas ce qui se passait dans ma tête. Je ne le comprenais pas non plus. Je ne comprenais pas pourquoi je préférais être avec mes copains au lieu d'être avec ma copine, par exemple. Je ne comprenais pas ce qui se passait dans ma tête. Je croyais que c'est normal. Jusqu'à ce que je commence à me poser des questions. Alors voilà, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. On a l'information au bout des doigts. On a des émissions. On a des gens qui parlent de tout ça. Et les jeunes sont beaucoup plus informés aujourd'hui. Mais dans notre temps... c'était pas pareil.
Est-ce que le fait de le dire, de l'avoir écrit, ça vous a enlevé aussi le poids du secret qu'on devait garder à une certaine époque? Vous l'avez dit, on est dans une époque différente. C'est une espèce d'exutoire au sentiment de culpabilité que vous avez peut-être assumé inutilement pendant de nombreuses années.
Mm-hmm. En fait, je ne voulais pas niaiser, comme on dit dans notre jargon à nous, dans le domaine artistique. Je ne voulais pas niaiser personne. Je ne l'ai jamais caché auprès des journalistes ou de la colonie artistique et tout ça. Mais j'ai été chanceux. Les gens qui m'interviewaient, chaque journaliste était assez professionnel. Ils me demandaient « Est-ce que tu veux parler de ta vie privée? » Je disais « Je préfère ne pas le faire. » Et on respectait mon choix. Maintenant, je peux le faire. Et J'ai eu un conjoint à un moment donné extraordinaire qui s'appelle Stéphane, avec lequel j'ai partagé ma vie pendant 7 ans. Maintenant, je suis célibataire, mais j'ai connu la joie d'être papa ou beau-papa parce que ce
conjoint... Mais vous le racontez très bien dans le livre.
Oui, ce conjoint avait 2 enfants au départ, 6 ans et 7 ans. Et j'ai connu la joie, Armand, de faire les devoirs en arrivant d'école, à apprendre leur table de mathématiques ou d'arithmétique, de préparer les lunchs pour l'école. Cette joie d'être beau papa, souvent les personnes qui ont mon orientation n'ont pas cette joie-là ou cette expérience-là. Et ça a été un beau moment de ma vie, ces 7 années.
Et tout ce que vous racontez dans le livre Mon histoire en noir et blanc, vous avez, d'une certaine manière, pu le transcrire au plan musical par une composition.
Oui.
Qui a pour titre « Mon parcours de vie, la musique étant universelle, qu'on soit de quelque origine que ce soit », on va comprendre à travers cette pièce-là, puis vous pourrez nous l'expliquer après, toutes les phases qu'on peut retrouver, les phases de la vie dans cette musique.
Mais Armand, je ne peux pas vous l'expliquer avant, pour que les gens puissent bien la comprendre.
Oui, mais rapidement, parce que oui, si vous voulez, bien sûr, allez-y.
Mais c'est parce que au départ, je ne suis pas vraiment un compositeur. Dans toute ma carrière, je pense que j'ai composé qu'une 10aine de pièces. Mais celle-ci, qui s'appelle « Mon parcours de vie », comme vous venez de le dire, vous allez voir, au début, ça commence comme une berceuse. Alors, ça évoque notre enfance. Ensuite, vous allez sentir que la mélodie devient beaucoup plus mûre, plus mature, parce qu'on devient adulte. Vous allez voir, la musique devient beaucoup plus mature. Et à un moment donné, ça tombe dans un mode mineur, qui correspond à des problèmes que nous avons eus, soit des problèmes de consommation, un divorce, un deuil, des problèmes de travail, de financier, tout ça. Alors, il y a un côté un peu triste. Et ensuite, on renaît de ça, on renaît de nos expériences. Et vous allez voir, ensuite, le thème redevient joyeux et c'est comme un nouveau départ. Alors voilà, je vous ai expliqué ma composition, je vous invite à l'écouter.
Alors, vous parlez de nouveau départ. Je vais vous demander aussi d'être attentif à l'interprétation que vous en faites, parce que pendant qu'on entendra la pièce, il y aura aussi un témoignage de quelqu'un qui vous est relativement proche.
Ah bon?
Derrière son beau sourire, parce qu'il est toujours souriant, Richard, il y a une histoire derrière cet homme-là. Il veut tellement cet homme-là réussir. Et il est tellement généreux. Je pense que moi, ça me fait du bien d'écrire ce genre d'histoire-là, même si c'était pas facile. Il y a des séquences dans le livre que j'ai trouvé difficiles. Mais j'ai trouvé qu'il a tellement été généreux. J'ai tellement aimé écrire ça.
Quelle belle surprise! Oh. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour Denis Martin Chabot, le co-auteur de ce livre-là. Et ça a été très facile de me confier à lui.
Ben oui, c'est lui qu'on entendait raconter que ça n'a pas été facile, nécessairement, non. Parce qu'effectivement, il y a des bouts difficiles, il faut le dire au lecteur. Mm-hmm. Mais quand on dit des bouts difficiles, c'est que vous le faites avec une telle franchise, avec une telle ouverture d'esprit, ça se lit très bien. En même temps, c'est difficile, mais c'est facile à lire parce qu'on comprend, et je vous disais avant d'entrer en onde, dans le fond, ceux qui aiment Richard Abel vont l'aimer davantage parce qu'il est authentique, parce qu'à travers cela, on comprend davantage ce que vous êtes devenu. La musique prend tout cet espace, probablement, à cause de tout ce que vous avez vécu, non?
Oui, effectivement. Et Denis Martin Chabot, l'auteur du livre, le co-auteur, m'a dit que un jour, pendant une émission comme la vôtre, Armand, c'était une émission avec Michel Jasmin. Il m'avait accordé lui aussi une entrevue d'une heure. Et à un moment donné, j'ai dit la phrase suivante: « Il n'est peut-être pas bon de souffrir, mais il est bon d'avoir souffert. » Et il paraît que cette citation-là, maintenant, est passée au domaine public, dans le sens que vous avez, chez les journalistes, il y a une espèce de recueil dont j'ai oublié le nom, que vous pouvez consulter sur Internet, et les citations de, des gens sont là, et la mienne y apparaît. Alors, mon Dieu, c'est tout un honneur.
Un autre gain en notoriété. dans le livre, vous racontez avec beaucoup de finesse le jour où vous avez appris à votre copine, parce que vous étiez fiancé, mm-hmm. on est aux années de cégep environ.
Oui, un petit peu après.
Un petit peu après.
Bon, ça sera en même temps à peu près.
Oui. Où vous lui annoncez, de façon, on ne donnera pas tous les détails, mais que finalement, vous devez rompre un peu la relation. Mm-hmm. Ce qui est extraordinaire, sautons les détails, il faudra lire le livre pour le savoir, mm-hmm. c'est que vous êtes demeuré, après toutes ces années, de bons amis.
Oui, effectivement, parce que elle s'appelait Joanne et je suis allé la rencontrer avant d'écrire le livre. Je lui ai demandé la permission de parler d'elle et elle a accepté parce qu'elle savait que ça serait fait avec respect. Et les derniers mois que j'étais avec elle, elle sentait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que je venais de rencontrer le premier garçon. Et elle croyait que j'avais une autre femme dans ma vie. Et puis, à un moment donné, je ne pouvais plus endurer de vivre cette double vie pendant quelques mois. Alors, un jour, elle était assise sur le sofa et puis je me suis assis par terre, je me suis accoté sur ses genoux et j'ai fondu en larmes. Je pleurais tellement. Et elle croyait que j'avais soit une maladie incurable, que je voulais y annoncer une terrible nouvelle, ou que j'avais une autre femme dans ma vie. Et puis quand elle me disait ça, ça me faisait pleurer davantage. Elle a vu ma douleur, elle a vu ma tristesse, elle a vu combien j'étais désemparé. Et quand je lui ai dit, Joanne, j'ai pas une autre femme dans ma vie, j'ai un homme dans ma vie. La conversation a arrêté là. Elle savait plus quoi dire. Elle a pas pu se venir. Elle s'est levée, puis elle a quitté tout simplement. Puis je pleurais. Je dis, laisse-moi pas comme ça. Elle est revenue le lendemain. Puis elle a pensé à tout ça. Puis elle dit, je t'ai tellement vu pleurer, je t'ai tellement vu avoir de peine, et tu as pas demandé d'être comme ça. Puis elle a tout compris. Et elle a dit, je te pardonne quand je ne peux pas faire autrement. Mais elle m'a dit, elle avait un bon sens de le mot, m'a dit que je ne te vois jamais avec une autre femme. Et puis, j'ai dit non, je ne blesserai pas une autre femme comme je t'ai blessé sans le vouloir.
Richard, les gens qui vous connaissaient de façon un peu plus intime, bon, savaient cela de mm-hmm. votre vie. Le fait de le rendre public, est-ce que vous vous sentez maintenant libéré?
Ben oui, d'une certaine façon, j'ai l'impression que les gens me connaissent mieux, voilà, et plus. Et puis oui, on se sent un petit peu libéré. De confier des choses, ça nous fait du bien. Et rarement, j'ai eu des témoignages incroyables sur Facebook et par courriel et par lettre. Je n'ai eu aucun message homophobe jusqu'à maintenant. Je pense que notre société fait du progrès. Et c'est simplement de dire aux gens qu'on n'a pas demandé à être comme ça. C'est ça qui est important. On n'a pas fait un choix. Et c'est de vivre avec et puis dans le respect.
Revenons sur votre papa qui malheureusement maintenant est décédé. Mm-hmm. Vous l'avez accompagné sur son lit de mort, si j'ose dire. Oui. Mm-hmm. Il y a une pièce musicale qui, pour lui, lorsque vous étiez venu à l'émission, vous nous en aviez parlé. C'est tellement une belle histoire. Juste nous la présenter, ça terminera ce premier bloc, mais mm-hmm. il y a une relation intime entre cette pièce et votre père.
Oui, papa, son film préféré était un film de Al Pacino qui s'appelle Parfum de femme, Scent of a Woman. Et dans ce film, il y a un moment donné un tango magnifique, un tango argentin qui s'appelle Por una cabeza. Et papa me dit, à chaque fois que je vois ce film-là, que j'entends cette musique-là, mon fils, je te vois la jouer derrière. Alors, j'ai dit, papa, ça tombe bien, je fais un nouveau spectacle qui s'appelle Le voyage autour du monde en musique et en chanson. Ça me permettra de visiter l'Argentine en musique et de jouer ce tango. Et papa est décédé quelques temps après. Mais sur mon album Autour du monde, la première pièce qu'on voit, c'est celle de mon père. Et c'est écrit en mémoire de mon père. Et je vous invite à l'écouter.